Europe 1.
13h de Elisabeth Assayac vous accompagne.
Merci Guillaume Buon, on vous retrouve à 14h pour un prochain point sur l'actualité.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge, au service d'un monde qui change. Et vous êtes au bon endroit pour découvrir des pépites françaises, des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a le tourisme. Comment faire bénéficier le plus grand nombre de personnes? Comment faire venir les touristes? Ils ont même réussi à rendre des villages éloignés beaucoup plus attractif. Tout ça, c'est grâce à Airbnb, le patron Europe, Moyen-Orient et Afrique et l'invité de La France bouge. À la une, la location de maisons ou d'appartements. Nous, on a trouvé aussi le Airbnb solidaire. Cette plateforme loue des logements vacants à des sans-abri ou des réfugiés. C'est la start-up du jour. Elle s'appelle Stirup et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, direction les Vosges, dans le tout premier office de tourisme. Il date de 1875. Rendez-vous à 13h30 pour le récit. Le pitch des Trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui on va recevoir Atlantide. Ce sont des jeux d'enquête sur mobile pour découvrir notre patrimoine français.
Allez, rendez-vous à 13h45. Et puis en fin d'émission, on va passer un coup de fil à la DRH de Rôle là-bas avec les salariés. Ils co-construisent le projet d'entreprise et ça marche. Allez, bienvenue dans La France bouge. Vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici à La France bouge. Et tout d'abord, merci à vous, chers auditeurs, d'être aussi fidèles. Bienvenue aux nouveaux aussi, parce que vous êtes 30 000 de plus par rapport à la vague précédente à nous écouter aujourd'hui, chaque jour sur Europe 1, de 13h à 14h. Un immense merci. On va continuer avec toute l'équipe à vous montrer nos belles pépites françaises. Aujourd'hui, nous sommes en pleine vacances. Comment fonctionne le marché de la location entre particuliers? On va en parler jusqu'à 14h avec vous, grand témoin du jour, Emmanuel Maril. Bonjour.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. Airbnb est né en 2008, 7000 environ salariés. Nous sommes en plein de vacances de Pâques, elle s'étale jusqu'au 9 mai. Vous êtes devenu Airbnb, on peut le dire, une vigie parfaite dans les comportements des vacanciers. La France, c'est le second marché d'Airbnb après les États-Unis. La location de vacances entre particuliers depuis 3 ans, là, on peut dire, c'est un peu nos premiers week-end de Pâques, nos premières vacances, j'ai envie de dire en toute liberté. Comment ça marche? Les réservations sont pleines?
Alors oui, les vacances de Pâques, le week-end de Pâques, ouais. C'est vrai, ça fait 3 ans. Ça passe vite, ouais. Mais ouais. C'est quand même
la dernière fois, c'était en 2019 où il y avait zéro contrainte.
Exactement.
Et là, donc, on recommence cette année.
On retrouve un petit peu ça. Alors évidemment, les tendances sont très différentes. Le voyage a beaucoup, beaucoup évolué, mais des choses, le domestique, par exemple, les Français ont redécouvert la France. Voilà, et ça
donc,
continue.
Quand vous dites domestique, ça veut dire en France.
Les Français qui
ça
réservent
reste
en
chez
France.
Nous.
Ouais. Les Français, en nature, de tout temps, en fait, étaient assez fiers un petit peu de pouvoir passer leurs vacances en France, parce que c'est un pays quand même assez merveilleux, c'est vrai. Et donc, on l'a vu s'accélérer avec la pandémie. On a vu les touristes étrangers moins venir, évidemment. Et là, on revoit, ça y est, allez, on y arrive.
Donc les Français qui restent en France et qui redécouvrent notre beau pays.
Et les Américains qui reviennent, par exemple.
Ah,
et les Anglais, et les Allemands. Oui, ça y est.
Ce comportement français est typique des Français ou tous les pays européens, finalement,
non,
aussi chez eux?
Mais même dans le monde, en fait, en général, les Américains aussi, les Allemands, etc. C'est, non, les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux, donc ils ont redécouvert leur propre pays.
Et ils sont restés. Ils ont envie de rester.
Et ils continuent, parce que quand on l'a fait pendant 2 ans de suite, finalement, on a redécouvert des choses qu'on a envie de continuer à découvrir, finalement.
À découvrir. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a changé, vous disiez, on a changé un peu nos envies, nos façons de voyager. On a redécouvert les grandes maisons de campagne, hein, à 1 heure des grandes villes. Ça aussi, elles ont été prises d'assaut, là, même pour ces vacances.
Oui, pour ces vacances, bien sûr. En plus, il fait beau.
Ouais.
Les gens redécouvrent la campagne française, un peu une espèce de revanche. Hein. Mais elle est formidable, cette campagne française. Elle est riche d'un patrimoine incroyable, on va en parler tout à l'heure. Le Perche à 2 heures de Paris, mais même...
Même dans le Jura, je suis sûr.
Dans le Jura, le Jura était une des destinations qui a le plus évolué sur les 2 dernières années, la Bretagne, le centre de la France, etc. Les Français, on a un territoire qui est assez formidable parce qu'en fait, il y a une profondeur d'offre qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout trouver. Et donc, à partir du moment où on recherche plus de convivialité avec des amis, de la famille, parce qu'on a été enfermé chez soi pendant des années, 2 ans, on peut dire des années.
Non,
hein.
On peut le dire, oui. Ouais. On commence à peine à le réaliser,
oui,
moi, je trouve.
Que c'est, ouais. Ouais, c'est vrai.
Ça a duré 2 ans et on était enfermés, c'est vrai, avec des restrictions.
Et puis surtout, on ne savait pas. Ouais. En fait, on a été enfermé, parfois on ne l'était plus. Puis quand on pensait qu'on ne l'était plus, en fait, on le redevenait. Ouais, et donc, on ne pouvait pas se projeter. Et donc, finalement, on disait quoi ? Bah, je vais prendre ma voiture, je vais faire 100 km. Mais à 100 km, où qu'on soit en France, il y a des choses incroyables.
Et c'est là où Airbnb prend tout son rôle. C'est parce que vous, on peut vous trouver partout, finalement. On peut vous trouver aussi bien dans des grandes villes que dans des campagnes, vous venez de le dire. On a eu envie de beaucoup plus d'espace. Et je crois que vous, vous avez rajouté en plus de plus en plus d'onglets hein, dans vos choix. Hein. Je crois, j'ai même trouvé l'onglet barbecue. Donc
ah, on peut tout trouver. C'est très fin comme recherche.
Des filtres, ouais, on peut chercher. Filtres, si, on veut travailler, si on veut travailler depuis un logement, on veut quitter la ville et puis aller à la campagne, on peut trouver s'il y a du Wi-Fi, un endroit sympa pour travailler. Enfin, tout ça, c'est des filtres qui existent, c'est vrai. Mais en fait, il y a 35 000 communes en France et il y a des Airbnb dans quasiment les deux tiers, même un peu plus. Et finalement, dans beaucoup, beaucoup de communes en France, il n'y a aucune autre solution pour aller les visiter.
Gîte de France existe depuis au moins 50 ans, donc
oui, bien sûr.
C'est quoi votre truc en plus ?
C'est la simplicité, c'est-à-dire qu'en quelques clics, vous pouvez mettre votre logement sur la plateforme.
Oui,
quelques clics. Et puis finalement, tristement, Airbnb est née en 2008 sur fond de crise. Et là, on retrouve encore des grosses problématiques de pouvoir d'achat. Et c'est ce que vous disiez dans votre introduction, c'est un excellent moyen de gagner de l'argent parce que je l'ai déjà dit, vous allez me copier sur ça.
Je vous ai cité. Hein,
sur le pétrole.
Sur le pétrole, non, sur le redistributeur de pouvoir d'achat.
Oui, parce qu'on n'a pas de pétrole en France, mais on a ce tourisme, c'est plus de 7% du PIB du pays. Si on arrive à en faire bénéficier le plus grand nombre dans des communes plutôt reculées et plutôt rurales, c'est formidable. Parce que dans ces communes-là, y a un petit village avec 250 habitants, mais il y aura...
Mais vous, c'est le cas, je crois. Hein. Je crois que vous louez votre maison, non ?
Moi, je ne vais pas rentrer dans les
non,
détails.
Mais c'est vrai, c'est important de savoir que le patron d'Airbnb fait aussi...
J'ai une petite maison
fait.
Dans le Vexin, qui est à moins d'une heure de Paris, et dans ce village-là, il y a trois logements qui sont sur Airbnb. C'est le seul moyen d'aller découvrir Airbnb.
Là, vous allez du
d'aller
côté...
découvrir le village, pardon.
Mais là, vous placez du côté du propriétaire, mais là, pour les vacanciers, vous disiez que c'était hyper facile. Nathalie disait, les logis, ça existe depuis hyper longtemps. Pourquoi c'est plus facile? Parce qu'en un clic, je choisis ma destination et le soir, je peux y être, c'est ça?
En quelques clics, oui. Alors après,
c'est les photos. C'est vrai, honnêtement, quand on choisit un lieu, les photos de chez vous sont particulièrement jolies, ce qui est moins le cas dans d'autres sites. Ouais.
Oui, alors après, tous les sites ont chacun leurs avantages. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a surtout un choix. Donc quand vous avez une famille avec trois enfants, vous avez plusieurs chambres. Vous avez un barbecue, un extérieur, une piscine, enfin... Vous avez le choix, parce qu'il y a des centaines de milliers d'annonces sur le site, en France, mais c'est la même chose en Italie, en Angleterre, en Espagne. Et surtout, la marque, elle peut vous accompagner, Airbnb peut vous accompagner dans un choix de voyage domestique pour les vacances de Pâques. Mais si jamais cet été, vous décidez d'aller au Portugal ou en Grèce, vous pouvez aussi y aller. Et en parallèle de ça, pendant que vous voyagez, vous mettez votre logement, donc vous gagnez de l'argent, c'est quasiment des vacances neutres. En pleine crise, c'est pas inintéressant.
Alors là, on est en plein pendant les vacances de Pâques. Là, les trois zones sont en vacances en même temps. Non, il y en a une qui est rentrée. Petit pré-bilan, le taux de remplissage est de combien ?
Alors, on n'a pas encore les résultats parce qu'on va attendre la fin des vacances. Parce que là, l'Île-de-France, Paris, vient de rentrer.
A commencé samedi.
Exactement. Mais c'est vrai qu'on a vu que même les villes commençaient à récupérer du dynamisme parce qu'en parallèle de ça, les vacances françaises, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, les touristes étrangers qui reviennent. Donc, en fait, on va avoir des remplissages qui vont être assez forts. Et donc, je redis, où que vous soyez en France, vous mettez un logement, je pense qu'il y a très forte chance qu'il soit loué dans les semaines qui viennent.
Donc, il va être loué dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on peut mettre tous les logements peuvent être mis sur Airbnb ? Parce qu'il y a quand même des critères. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de monter en gamme. Alors, peut-être que c'est une vue de l'esprit, mais vu que vous proposez maintenant de plus en plus des maisons avec piscine, le Wi-Fi, j'ai l'impression qu'on monte en gamme chez Airbnb. Est-ce qu'on trouvait, il y a quelques années, la petite chambre au fond de la maison pour arrondir les fins de mois du propriétaire ? J'ai l'impression que ça laisse pas, qu'on en a moins qu'avant.
Vous l'avez toujours ?
On l'a toujours, d'accord.
Oui, vous l'avez toujours, parce qu'il y a toujours une bonne partie de ce que vous pouvez trouver sur la plateforme, qui est une chambre chez l'habitant. Donc là, on va avoir des prix qui sont très abordables. Et donc, en fait, on n'en parle pas, il y a tout. Vous avez tout. Vous avez le logement, le penthouse à Paris qui va coûter plusieurs centaines d'euros la nuit. Et vous allez avoir la petite chambre chez l'habitant, toujours à Paris, qui va coûter quelques dizaines d'euros par nuit.
C'est quoi la part entre le logement chez l'habitant et puis le logement entier en général ? Qu'est-ce qu'on cherche
plus ? On a entre 15 et 20% à peu près de logement chez l'habitant aujourd'hui, donc des chambres chez l'habitant. Ensuite, il y a des chambres partagées. Ensuite, il y a des logements entiers.
Et ça, les étudiants cherchent ça, par exemple ? Plutôt que de s'embêter à trouver une coloc ou...
Honnêtement, quand vous avez. Sur le long terme ?
Oui, sur le long terme, oui.
Oui, ça, exactement. C'est un des cas qu'on a pu voir. On voit évoluer d'ailleurs depuis quelques temps. C'est des colocations
parce
qui
c'est
se passent sur
Airbnb. C'est plus simple, finalement, plutôt que c'est plus rassurant finalement pour le propriétaire. Parce que vous avez, il y a une sécurité, il y a une assurance de chez vous.
Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est des cas d'usage aussi qui sont développés. Il y a ça, il y a le télétravail,
alors justement,
etc.
Vous parlez du télétravail. Aujourd'hui, on loue des Airbnb de plus en plus pour télétravailler. Ça a augmenté là depuis le début de la crise sanitaire, même si là on en sort petit à petit.
Oui, bien sûr. Oui. Alors ça a énormément augmenté.
C'est
on voit d'ailleurs que les recherches Wi-Fi, etc., sont des recherches très importantes sur notre plateforme. Et puis on voit les séjours
quand vous dites
de plus.
Que ça a augmenté, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que les séjours de plus de 30 nuits, donc les séjours longs, donc des gens qui vont vraiment aller ailleurs pour vivre une autre vie finalement et travailler de là-bas, c'est presque un quart des nuits aujourd'hui sur la plateforme. C'est deux fois plus qu'en 2019.
Deux fois plus qu'en 2019. Donc Airbnb est devenu aussi une plateforme de coworking,
en fait,
finalement,
de
télétravail. En fait,
de tout type d'usage.
De tous les usages. Durée, type de logement, nombre de personnes dans un logement, vous allez pouvoir trouver à peu près ce que vous voulez. Donc si vous décidez de partir avec votre équipe, par exemple, une petite équipe, dans une grande maison à la campagne pendant un mois pour réfléchir aux enjeux stratégiques de l'entreprise, par exemple, on pense aux petites startups qui vont arriver juste après, et bien pourquoi pas, c'est faisable. Et on le voit d'ailleurs.
Vacances, télétravail, colocation pour étudiants, c'est ce que vous nous dites, hein, Emmanuel Maril, hein, vous êtes le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. Airbnb, vous êtes devenu incontournable sur tous ces aspects de la location entre particuliers. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Une plateforme pour mettre en relation des sans-abri et des propriétaires de logements vacants. C'est la solution, ça s'appelle StyreUp et on la découvre dans un instant.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises. Et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Emmanuel Maril, vous êtes le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. Airbnb, la plateforme de location d'appartements. Maison entre particuliers. Nous sommes ravis d'être avec vous. Vous l'avez dit depuis le début de l'émission, on a besoin d'espace, on a des envies, hein, elles sont très précises. Hein. On peut avoir envie de Wi-Fi, de barbecue, de piscine.
Le barbecue va devenir indispensable.
Indispensable. Hein. On trouve de tout sur la plateforme, aussi bien pour le télétravail que pour les vacances. Et c'est la première fois depuis 3 ans, puisque c'est un peu notre moyen de comparaison. Hein. Là, on est en toute liberté. Vous assistez à de telles augmentations de réservations, même si vous n'avez pas encore les chiffres définitifs. Vous restez avec nous. Être propriétaire d'un logement et se sentir utile, c'est possible grâce à cette start-up, surtout quand on découvre qu'il y a 150 000 sans-abri en France et 3 millions de logements vacants. Ce chiffre m'a frappé,
Nathalie.
Ah ben,
je ne savais pas. J'ai vérifié, hein, parce que ça me paraissait tellement...
Mais oui. Mais vous vérifiez quand j'écris, vous vérifiez, j'aime bien. 3 millions de logements vacants, mais vous avez une solution là dans vos bagages. Delphine Barthes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de StyreUp. StyreUp, c'est une plateforme donc, de location de logements vacants. Cette plateforme a à peine 2 ans. C'est une sorte de tiers de confiance entre les propriétaires et les associations d'aide au logement d'urgence. Est-ce que c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça, sauf qu'on ne fait pas de location. Mmh. On fait la mise en relation et les logements sont prêtés gratuitement aux associations.
Aux associations qui, voilà, elles, installent les personnes
tout
qui en ont besoin.
Voilà, et on va s'adresser à des publics qui sont effectivement dans la galère, qui ont besoin d'un toit, mais qui ne sont pas si loin du relogement. Et il leur faut un petit coup de pouce, le pied à l'étrier. StyreUp, ça veut dire étrier en anglais, pour le pied à l'étrier, pour faciliter le relogement. Donc ça peut être des femmes victimes de violences, des jeunes en précarité notamment qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, ou encore des réfugiés.
Encore des réfugiés. Donc concrètement, vous transformez ces logements vacants en tremplin pour
tout
des personnes qui sont dans une passe, comme vous dites, dans une mauvaise passe, hein, mais ça va aller mieux.
Voilà.
Hein, et ça peut être toutes sortes de publics et vous permettez aux propriétaires de faire une bonne action en quelque sorte.
Alors ils font une bonne action et tout à fait, ils se rendent utiles. Nous, on permet d'encadrer ça, de sécuriser, de fiabiliser le dispositif, parce
que
c'est pas évident.
Vous sécurisez quoi ?
Alors, on va sécuriser parce qu'on va vérifier la fiabilité des associations qui accompagnent les publics, qui soient vraiment à même de faire de l'accompagnement avec des salariés, qu'il y ait bien un relogement qui soit possible derrière en quelques mois, puisque les contrats de prêt sont de 6 mois. Et on va vérifier aussi la souscription d'assurance, les responsabilités, le suivi. On va digitaliser tout ça, on va faire un suivi en ligne.
Un suivi, voilà. C'est-à-dire au-delà de pouvoir régler, de récupérer l'appartement au bout de 6 mois, c'est quoi ? C'est les accompagner vers l'emploi ? Il y a toute une démarche d'accompagnement ?
Non, finalement, nous, chez StyrUp, la seule chose qu'on ne fait pas au niveau opérationnel, c'est l'accompagnement social, puisque ça, c'est le boulot des associations, ce n'est pas notre valeur ajoutée. Nous, par contre, on va vraiment fiabiliser le dispositif en vérifiant justement s'il y a par exemple un sinistre dans le logement, vérifier que ce soit déclaré, que ce soit géré au niveau assurantiel, dégradation pareille. Qu'il y ait bien le suivi de la personne pour une sortie positive vers un logement pérenne qui soit effectué et qu'on puisse timer, enfin faire un point.
Vous regardez les profils des personnes qui entrent ?
Non, on ne regarde pas les profils des personnes. On va pour l'instant communiquer sur des bonnes pratiques, sur des publics sur qui ça marche ou sur des publics avec lesquels on a testé et ça ne marche pas. En tout cas, StyrUp n'est pas la réponse pour ces personnes-là.
Alors qui, par exemple, vous pensez à quoi ?
Des personnes qui sont vraiment trop loin du logement, qui n'ont jamais... qui sont loin de récupérer leurs droits, par exemple, pour avoir des aides au logement ou un travail ou un suivi.
Donc des personnes gens qui sont complètement hors circuit,
qui souffrent d'addiction ou de troubles psychiatriques, ça ne va pas être les publics de StyrUp. Les publics de StyrUp, je citais l'exemple des jeunes en précarité. Ces jeunes-là, ils ont le droit, ils ont accès à des dispositifs d'aide pour accéder au logement ensuite, sauf qu'on leur demande de justifier d'un logement stable de 6 mois pour y accéder. C'est le serpent qui se mord la queue.
Ça, ouais.
Donc nous, mécaniquement, en fait, on fait le job. Et donc, par exemple, sur ces publics-là, c'est hyper efficace.
Hyper efficace. Comment vous les récupérez, ces logements ?
Alors, on les récupère parce que les propriétaires, au-delà de faire un geste utile et solidaire, on a une incitation financière. Ils font d'importantes économies sur la sécurisation des logements et aussi de défiscalisation, puisque quand ils offrent le loyer à une association, c'est un don qu'ils vont défiscaliser.
Oui. Mmh. Mais pourquoi, mais 3 millions, pourquoi ils ne les louent pas ?
Alors, sur ces 3 millions, il y en a 30% qui seraient utilisables, qui seraient décents pour être utilisables.
Le reste,
il y en a qui sont soit dans des successions, c'est compliqué, ou soit qui sont trop dégradés. Et après, ils ne les louent pas, alors, soit parce qu'ils ont eu des historiques avec des propriétaires indélicats, soit parce que c'est dans des... on va dire, en transition vers une transaction, rénovation, etc. Ou soit, par exemple, parce que c'est des propriétaires Airbnb qui n'ont pas pu louer plus de 120 jours sur Paris. Et donc, nous, on va proposer de le prêter le reste du temps. Donc, ils font un geste solidaire. Et je prends l'exemple d'Airbnb, où la moyenne, c'est 2000 euros gagnés par propriétaire Airbnb en France. Et bien, nous, on va leur proposer le reste de la période, en tout, augmenter leur pourvoir d'achat, non pas de 2000 euros, mais de, en tout, 4 650 euros avec la défiscalisation.
D'accord, donc l'argent vient d'où ?
L'argent, c'est la réduction d'impôt sur le revenu. 66% du loyer est défiscalisable. En fait.
Alors pour l'instant, StyrUp, vous êtes présent dans les Hauts-de-France, en Normandie, Grand Est et Île-de-France.
Ouais, et on a d'autres tractions sur Montpellier, Marseille, Lyon. Ouais.
On vient vers vous, là, par exemple, pour nos auditeurs qui se disent « Tiens, mais moi aussi, j'ai envie d'être utile, j'ai un logement qui est vide, j'ai envie d'aider ces personnes-là. »
Tout à fait, et encore plus avec l'actualité sur les réfugiés ukrainiens. Il y a plein de personnes qui se sont rendues compte que ils ont du patrimoine qui dort, et qui peuvent le mettre à disposition. Et du coup, ils franchissent le pas en se disant, là, c'est facilité, c'est encadré, on est rassuré. Et du coup, effectivement, on a des appels entrants depuis plusieurs semaines.
Vous accueillez des réfugiés ?
On accueille
ukrainiens.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est pas nous, c'est les propriétaires.
Non, les propriétaires, oui. Emmanuel Maril, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb, le logement solidaire, ça fait partie aussi d'Airbnb. Je crois que vous avez mis aussi en place un accompagnement pour les réfugiés.
Oui, bien sûr. Oui, ça fait. On avait commencé ça il y a quelques années. On l'avait fait avec Appart Solidaire pendant le premier confinement pour héberger les personnels soignants proches des hôpitaux. On avait 4000 personnes à peu près en France. Et là, évidemment, on l'a remis en place avec ce drame qui se passe en Europe, en Ukraine. Et on a plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens qui dorment en ce moment même dans des logements Airbnb, des hébergeurs.
Donc ce sont des propriétaires qui vous ont contacté spontanément ou c'est vous qui êtes allé dire votre logement, il est un peu vide depuis longtemps, ce serait bien de...
Non, on contacte en général en disant vous êtes sur Airbnb, vous accueillez d'habitude des voyageurs, il y a un besoin, c'est un cas de force majeure. Est-ce que ça vous dirait de mettre votre logement sur la plateforme pour des réfugiés, d'où qu'ils viennent. Et il y a des dizaines de milliers d'hébergeurs qui ont dit oui, dans tous les pays d'Europe, parce qu'aujourd'hui, on voit que d'ailleurs, la plupart des réfugiés sont surtout en Allemagne, en Pologne et en Hongrie, République tchèque. Et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, il y a toujours ce besoin de... Ça ne peut pas être nous seuls. Il faut qu'il y ait des associations, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour s'occuper des propriétaires et des réfugiés, parce qu'un logement, c'est que le début. Après, il faut des vêtements, de la nourriture, de l'école. Enfin, il y a plein d'accompagnements.
Quand le conflit a éclaté fin février, il paraît qu'il y a eu pas mal d'élan de solidarité. Justement, des personnes ont loué des appartements sur Airbnb en Ukraine pour pouvoir aider les Ukrainiens. Même si c'était pas loué, en fait, même s'ils n'y allaient pas, est-ce que c'est vrai ?
Oui, on a vu ça, évidemment. C'est alors quelque chose qui nous a
spontanément.
C'est une forme de don.
Mais c'est un don direct, en fait.
Oui, c'est ça.
Parce que vous le donnez à quelqu'un, vous le donnez pas. Voilà. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup, plu.
Ça a pris une grande ampleur.
Ça a pris une ampleur assez significative.
C'est-à-dire ?
Il y a eu beaucoup de donations qui ont été faites. On communique pas vraiment sur les chiffres, mais c'est vraiment des montants très significatifs. Parce que je pense que c'était aussi à la hauteur de l'émotion qui a suscité
la
le 24
soudaineté
février,
du conflit. Mais ça continue.
Alors ça s'est un petit peu atténué, mais ça a été repris par un autre phénomène qui est le nombre de logements qui sont mis sur la plateforme, sur notre plateforme, gratuitement pour accueillir des réfugiés. En France, il y en a plusieurs milliers qui sont aujourd'hui comme ça, des gens qui attendent que les réfugiés viennent chez eux. Et des chambres chez les personnes.
Je pense
que d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a un accompagnement qui est fort. Il y a l'hébergeur est là, le propriétaire est là.
Pour la réinsertion, c'est encore mieux d'avoir ce contact humain permanent.
Vous pourriez travailler ensemble parce que finalement, c'est vrai que vous pouvez facilement repérer les logements qui restent vacants une certaine période.
Et les redonner à Stirrup.
Les Ukrainiens, c'est bien, mais ça va rester conjoncturel. Et malheureusement, structurellement, des femmes victimes de violences, etc., il y en a toute l'année, tout le temps en France.
Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que vous avez raison.
Il faut parler.
Mais il y a beaucoup
de choses. Il y a des choses à faire.
L'hébergement. De toute façon, on en parlait avant cette émission. J'attends un email et j'ai eu votre carte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. C'est vrai.
Juste avant de vous laisser, Delphine Barthes, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les histoires derrière ces initiatives positives. Vous étiez bénévole avant de lancer Stirrup, auprès d'une association de personnes en difficulté. Et c'est la rencontre avec une femme,
sur un camp de migrants, une famille qui vivait sous une tente, en fait. Et ça a été l'électrochoc, en fait. J'ai juste pas pu les laisser. Comme ça, et la meilleure façon de les mettre à l'abri à l'époque, ça a été un logement à prêter parce qu'il était vacant depuis 3 ans.
Et vous l'avez eu comment, ce logement ?
C'était des propriétaires.
Des gens que vous connaissiez.
Oui, tout à fait, de mon entourage. Par contre, ils m'ont dit, faut encadrer tout ça, faut que ça se passe bien, et si ça se passe mal, faut que ça se passe bien quand même. Et c'est comme ça qu'est né Stirrup.
Nous, on vous souhaite bonne chance, Delphine Barthes, parce que c'est une très belle idée, c'est une très belle initiative. Vous reviendrez dans la France Bouge nous raconter ce que vous avez fait avec Airbnb. Emmanuel Maril, vous êtes notre grand témoin du jour. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
On va partir dans les Vosges, dans la ville de Gérardmer. Là-bas, a été créé le tout premier office de tourisme français. Il date du 19e siècle et c'est la saga du jour. À tout de suite.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous le voyons chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Encore merci à vous chers auditeurs, il faut le dire, parce que oui, nous avons eu les chiffres médiamétrie la semaine dernière et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous êtes notamment 30 000 de plus par rapport à la dernière vague, donc merci. On continue comme ça avec toute l'équipe à vous faire découvrir de belles pépites françaises. Aujourd'hui, on part en vacances, nous sommes ravis d'être avec vous, Emmanuel Maril, enfin en vacances ou en télétravail, parce que vous êtes le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. Airbnb, ce n'est pas seulement une plateforme pour partir en vacances. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission. On peut aussi télétravailler. Vous avez de plus en plus de demandes de location, d'appartements ou de maisons. On peut venir avec les collègues pendant passer quelques jours ou quelques semaines pour pouvoir travailler tranquillement. Airbnb, ce sont plus de 500 000 logements partout en France. Et vous êtes devenu aussi, on peut le dire, un moteur pour certaines villes éloignées et même pour des campagnes.
Oui, je pense qu'en fait, le tourisme, c'est un marché d'offres. Donc, quand vous avez un logement sur Airbnb ou ailleurs, il va faire venir des flux de voyageurs, de touristes. Et donc, ça peut dynamiser des villages, des zones un peu reculées.
Mais par exemple, il y a eu des exemples concrets où il y a des villages où il n'y avait pas un hôtel, il n'y avait rien, et vous êtes arrivé, vous êtes implanté.
Je vous dis, on est présent dans plus de 20 000 communes, et il y a un hôtel dans 7 000 communes à peu près en France. Donc, ça veut dire que si on fait la différence, il y a 13 000 communes dans lesquelles il y a autre chose qu'un hôtel, dont des Airbnb, éventuellement des gîtes ou... Mais ça, c'est vraiment la location saisonnière chez l'habitant permet d'aller beaucoup plus loin. Mmh. Vous allez dans des endroits beaucoup plus reculés, hors des sentiers battus, ce qui est formidable parce que c'est ce qu'on recherche aussi quand on voyage. Et donc d'aller découvrir des petits villages totalement reculés et qui racontent des très jolies histoires.
Des villages qui racontent de très jolies histoires. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. En revanche, il y a certaines collectivités qui en ont assez de vous. Par exemple, à Vannes hein, ou à Quimper, là, Airbnb, c'est pas forcément leurs amis, quoi. Ils n'ont pas forcément envie de vous voir tout le temps.
Il y a quelques villes ou stations balnéaires qui peuvent avoir des idées un petit peu, parfois un tout petit peu hâtives, parce qu'en fait, on se rend compte quand même que malgré tout, le tourisme reste très important. Il suffit juste de bien l'organiser. Et aujourd'hui, il y a un ensemble réglementaire.
Mais pourquoi vous avez été victime d'une surpopulation à cause de vous? Il y a eu trop de personnes qui sont venues, on a loué trop de logements et il n'y avait plus de rien pour la location classique. Qu'est-ce qui a posé problème?
Non, ça, c'est pas le cas. Non, je pense qu'il y a aussi un petit peu de méconnaissance de toute
de
la réglementation. Non, la réglementation, parce que depuis 5 ans, il y a quasiment eu toutes les années, tous les ans, une nouvelle loi qui est à disposition des villes pour pouvoir justement avoir plus de transparence et contrôler ce qui se passe avec les locations saisonnières sur leur territoire. Et je pense que certaines villes ne l'utilisent pas forcément de la meilleure des manières et parfois, surtout dans des situations un peu compliquées. Mais honnêtement, on parle de vraiment très très peu de villes. Mmh. L'immense majorité,
au contraire,
elles ont plutôt envie d'avoir des touristes parce que c'est important pour faire vivre le tissu
parce
économique local.
Quoi. Ouais. Comment vous faites pour contrôler les locataires qui viennent chez des particuliers comme ça? Et parfois, alors ça se passe généralement très bien, mais parfois il peut y avoir des surprises, évidemment.
La meilleure, en fait, le système qui a été mis en place, c'est-à-dire la double notation, c'est-à-dire le voyageur note l'hébergeur et l'hébergeur note
ça,
le voyageur.
C'est vraiment ça fait une vraie différence, effectivement. Parce que du coup, en tant que locataire, on se sent un peu responsable quand même, parce que pour la prochaine fois, on n'a plus le droit de partir.
Ouais, c'est ça.
Oui, on se sent un peu obligé. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut absolument qu'il y ait tout, il faut que ça soit parfaitement propre, voire un petit peu plus. Et donc, c'est ça qui permet
de. L'identité est vérifiée, donc pour nos auditeurs, voilà, c'est vérifié des deux côtés.
Et puis, et bien sûr, et puis surtout, quand vous avez 10 personnes qui vont noter un logement et qui vont lui mettre 5 sur 5, et que les notes sont assez récentes, vous pouvez y aller à peu près les yeux fermés. Ça va bien se passer. Mmh. Et c'est ça, en fait. On n'a pas besoin d'envoyer des gens, on n'a pas besoin de vérifier nous-mêmes. Le voyageur, le consommateur va vérifier lui-même. Et ça va dans les deux sens.
Mmh. Et ça va être valable aussi, vous allez aussi développer des gammes un peu plus luxe. Prochainement.
Il y a des catégories qui sont déjà sur la plateforme. Vous avez des catégories un peu historiques, vous avez des types de maisons, des typologies de maisons, des yourtes, des cabanes dans les arbres. Il y a plein de catégories, des péniches qui existent aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve assez intéressant. Ça permet d'inspirer un petit peu. Les gens, ils se projettent en fait sur d'autres choses. Quoi.
Et vous arrivez, vous, aller, en tant que patron et vos équipes, d'aller visiter certaines. Je ne sais pas comment vous vérifiez les lieux, les endroits, au-delà des notations.
Alors, c'est la même chose. Il n'y a pas mieux qu'un voyageur. Qui va rester dans les lieux, parce qu'on ne peut noter un lieu que si... Moi, je voyage avec Airbnb, évidemment, mais il y a des centaines de milliers d'annonces, voire des millions dans le monde, je ne vais pas pouvoir...
Non, mais vos équipes, il n'y a pas un service dédié à la vérification des annonces mises sur la plateforme.
Ils ont déporté ça sur les visiteurs.
C'est nous
les vérificateurs.
Vous travaillez pour nous, et puis surtout, voilà. Vous avez un œil, et vous allez avoir un œil en plus qui est assez aguerri. Donc vous allez
une mère de famille ne verra pas voir la même chose que... nous, on compte le nombre de casseroles et la taille des placards. Quand un célibataire fera peut-être autre chose.
Mais c'est important. Si dans la définition, il y a... c'est bien pour la famille parce qu'il y a un lit pour enfants, etc. C'est important d'avoir le feedback. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut que ça soit, précis. La précision est très importante. Donc on a besoin de plein de commentaires. D'ailleurs, j'invite les voyageurs et les hébergeurs à laisser des commentaires.
Des commentaires. Alors, chaque jour dans La France Bouge, Emmanuel Meril, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un endroit qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Aujourd'hui, nous allons partir visiter le premier office de tourisme français. Il date de 1875. C'est Gérardmer et c'est la saga du jour.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Bonjour Charlotte Barrican.
Bonjour Elisabeth.
On pose nos bagages, on part dans les Vosges, dans le tout premier office de tourisme français, c'est Gérardmer. Il existe depuis 1875, mais pourquoi là-bas ?
Bien Elisabeth, parce qu'à l'époque, les ducs de Lorraine faisaient des cures thermales à Plombières-les-Bains et ils se promenaient dans la ville juste à côté, à Gérardmer. En haute montagne, ils sont immédiatement séduits par ce site. Les touristes affluent. Alors un groupe de Gérômois, c'est comme ça que l'on appelle les habitants de Gérardmer, invente le premier office de tourisme en France, à l'époque appelé le comité des promenades, comme nous le raconte Bruno Poisat, le directeur de l'office de tourisme de Gérardmer.
Il faut savoir que le train est arrivé en 1878. Hein, et donc je pense que nous pensons qu'il y a une réflexion qui s'est faite, parce que lorsqu'un train arrive, d'installer une voie, une ligne de chemin de fer, ça prend un certain nombre d'années. Et donc les notables gérômois se sont dit on va avoir beaucoup de monde, des personnes qui vont arriver notamment de Paris, hein, parce que le train bien sûr était connecté à Paris, et ils se sont dit on va créer une structure qui va s'appeler le comité des promenades, et le but, c'est d'attirer les étrangers en faisant valoir notre pays, nos sites, nos paysages, en y créant des promenades, en rendant le parcours de nos chemins plus agréable et plus facile.
Alors, faites-nous un petit peu rêver, Charlotte, à quoi ressemble ce paysage jérômois ?
Elisabeth, imaginez, c'est une ville avec en son centre un lac de 115 hectares où vous pouvez y faire de la barque ou même vous y baigner. C'est aussi une ville entourée de montagnes à 650 mètres d'altitude. On la surnomme la Perle des Vosges et elle fait partie de ce que l'on appelle les stations touristiques de première génération, comme Deauville ou Chamonix. Et en 1907, elle devient une station de sport d'hiver.
On a même... s'apprête à sourire, rivalisé avec Chamonix en 1924. On avait déposé un dossier pour l'obtention des premiers Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est Chamonix qui les a obtenus. Pour la petite histoire, donc c'est une station nous, qui a, on va dire, quatre saisons. On est toujours en activité. Hein. C'est une station qui reçoit un peu plus d'un million de touristes par an. Nous sommes situés à... Pour plus de 10 millions d'habitants, on est à 5 heures. Hein. On est les premiers 1000 mètres de Paris. Bon, mais évidemment, pour toutes les clientèles du Nord, le Luxembourg, les Belges, le Grand Est, hein, on est très, très bien situé sur la destination montagne. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'attrait de Gérard May. Hein. C'est son positionnement géographique.
Gérard May est une destination où tous les habitants construisent leur vie autour du tourisme, qu'ils soient hôteliers, restaurateurs ou guides. Cela représente plus de 50% des recettes du territoire.
Alors c'est qui ces touristes qui viennent à Gérard May ?
Bien, c'est une destination familiale, Elisabeth, qui attire aussi bien la clientèle étrangère, parisienne ou même locale. Et le paysage n'est pas le seul atout de la ville. De nombreux événements sont organisés comme des triathlons ou encore le festival du film fantastique qui attire chaque année plus de 40 000 spectateurs. Et on l'a vu depuis deux ans, malgré la crise du Covid, les touristes n'ont pas délaissé la montagne. Pour une raison simple, Gérard May est une station climatique.
C'est-à-dire que les gens cherchent quoi ? Ils cherchent des espaces où ils puissent déconfiner, c'est-à-dire avoir de l'espace. Ils cherchent du bon air. Ils cherchent également bon, des lieux qui sont assez proches de leur base, du fait que notamment les carburants sont devenus très chers. Et donc nous, Gérard May, on se positionne sur tous ces critères. Tous les feux sont au vert. Et on a depuis trois années de très très bons taux de remplissage, même l'hiver, même quand la station, les remontées mécaniques étaient fermées, on a fait en hébergement un hiver exceptionnel parce qu'on a eu de la neige et les gens qui d'habitude allaient skier dans les Alpes, voire plus loin, se sont dit bah, y a de la neige à côté de chez nous, bah, on va aller découvrir ce que sont les petites stations et notamment la station de Gérard May dans les Vosges.
Et oui, ils ont rempli son parc hôtelier à 96% cet hiver. Et selon le directeur de l'Office du tourisme pour les vacances de Pâques et d'été 2022, la tendance n'est pas prête de s'inverser.
Merci Charlotte Barrican pour cette saga de ce premier Office du tourisme de France, Gérard May, qui date de 1875. Emmanuel Maril, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. Il y a des Airbnb à Gérard May ?
S'il n'y en a pas, il va y en avoir.
Il va y en avoir, là, tout de suite.
Il ne faudrait pas vous dire le chiffre, je ne l'ai pas de tête comme
mais
ça.
Mais vous n'avez pas de chiffre, j'ai bien compris, vous êtes venu sans chiffre.
Ah bah surtout ce déjà. Non mais Gérard May, il y en a forcément beaucoup. Oui.
Ah oui, donc vous connaissez.
Oh, oui, enfin, c'est cette région-là. On sait qu'en plus, ça s'est beaucoup développé pendant la pandémie. Tout l'Est de la France a énormément bénéficié.
Oui, le grand air, il le disait, hein, avoir de l'espace, du bon air, des lieux proches de la maison à cause de l'augmentation du prix des carburants. Vous aussi, chez Airbnb, vous l'avez sur la plateforme, vous l'avez remarqué, on choisit des destinations plus proches de la maison parce que c'est cher maintenant de rouler
en
voiture.
Ouais, on l'avait déjà vu depuis le début, avec le début de la pandémie. On voyait que les destinations étaient très proches parce que comme les gens ne savaient pas déjà à l'époque s'ils allaient pouvoir,
pouvoir y aller.
Ils disaient bon, au moins, parce que rappelez-vous, premier confinement, c'était 70 km ou 80 km. Donc, on va faire ça à cette distance-là.
Alors, vous avez publié une étude il y a quelques semaines. Il en ressort que la location de sa maison, de son appartement sur Airbnb rapporte 3000, c'est vos chiffres, hein, 3800 euros, c'est ça,
oui.
Brut, que l'on peut gagner en plus.
Ce qui par
fait
an.
En par an, évidemment, ce qui fait environ 2200 euros net. Ça me paraît énorme.
C'est pas mal, oui.
Eh ben c'est ce que je vous disais, c'est une des possibilités de redistribution de pouvoir d'achat les plus intéressantes aujourd'hui qu'on puisse avoir. Et en plus, avec ce qui vous coûte le plus cher, votre loyer ou votre remboursement d'emprunt, votre résidence principale, c'est ce qui vous coûte le plus cher aujourd'hui.
Mais en fait, ça fait combien de nuitées? Parce que finalement,
c'est quelques week-ends par an plus vos vacances.
Et c'est tout, ça suffit.
Vous voyez, ça dépend d'où vous êtes, mais vous êtes sur un prix moyen à peu près d'une centaine d'euros. Ça dépend. Après, Paris, ça peut être un peu plus cher parfois. Et donc, pour aller gagner 3800 euros. Il vous faut à peu près 38 unités. Donc 38 unités, c'est... vous avez combien de week-ends? Il y en a 52, ça fait plus de 4 jours déjà. Donc, ouais. Je pense qu'en réalité, c'est ça, c'est quelques jours, quand vous n'êtes pas là.
C'est ça l'esprit en fait, c'est quand on n'est pas là, c'est pas acheter un truc juste pour le louer sur Airbnb.
Bah, vous avez des résidences secondaires aussi qui ont été achetées pour ça, etc. Mais surtout sur les zones côtières. Mais oui, l'idée au départ, Airbnb, c'est Airbed and Breakfast. C'est un lit gonflable et un petit déjeuner.
Maintenant,
c'est le barbecue Wi-Fi et puis avec toute son entreprise.
Vous travaillez avec les offices du tourisme?
Souvent quand j'allais rencontrer la communauté, les hébergeurs, on appelait l'office du tourisme local pour qu'ils viennent les rencontrer aussi.
Ouais. Maintenant, c'est eux qui vous appellent, je suis sûre.
Oh, ça dépend. Avec certaines offices du tourisme, on a de très très bonnes relations, donc on peut s'appeler. Oui.
Vous restez avec nous, Emmanuel Maril, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb.
Europe 1.
À suivre des jeux d'enquête historiques. En plus, ils sont géolocalisés. C'est le moment du pitch des trophées de l'avenir avec les bons conseils de Nathalie Carré. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle où ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. C'est un expert au souci. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Maril, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on vous propose un projet qui a été lancé il y a 3 ans. Bonjour Romain Aymar.
Bonjour.
Vous avez 34 ans, vous êtes Montpelliérain, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et vous êtes le cofondateur d'Atlantide. Ce sont des jeux d'enquête géolocalisés sur le téléphone. Vous avez fait, vous, des études d'ingénieur en informatique. Vous êtes développeur et vous avez deux passions, l'histoire et les jeux. Vous avez combiné les deux. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est quoi Atlantide? Vous avez une minute pour nous convaincre. C'est parti.
Ok, super. Donc, bonjour, merci. Donc Atlantide, c'est un jeu vidéo d'enquête géolocalisée, comme vous venez très bien de le dire, qui va jouer sur smartphone et dont le contenu va être basé sur l'histoire des lieux. Donc l'idée, c'est vraiment qu'avec son smartphone, on va télécharger l'application Atlantide. Et là, on va se laisser embarquer dans une aventure où on va pouvoir rencontrer des personnages historiques, on va pouvoir manipuler des documents d'archives, on va pouvoir résoudre des énigmes. Forcément, il y a une enquête à résoudre, mais dont tout le scénario, toute la mise en scène sera basée vraiment sur l'histoire locale, les mythes et les légendes. Tout ça, on le met en scène au travers du jeu, en travaillant avec des historiens, des conservateurs et des guides qui nous aident à concevoir un contenu de qualité. Donc l'application est gratuite et ensuite, pour jouer, il faut acheter un scénario. Donc on a certains qui sont gratuits, d'autres payants avec des prix qui vont de 2 à 8 euros par équipe. Par groupe, on encourage les gens à partager, à former des groupes pour jouer ensemble et échanger. Et on est présent aujourd'hui dans 15 lieux, donc avec des villages jusqu'aux grandes villes. L'objectif, c'est vraiment d'être partout, mais aussi des monuments. Donc le Mont-Saint-Michel, par exemple, le château de Chantilly ou le château de Dracula en Roumanie, parce qu'on n'est pas forcément que en France. Et voilà, donc pour résumer un petit peu, Atlantide, c'est tout ça.
Vous avez entendu le gong?
Ah non, pas du tout.
Il y a un gong. Vous pouvez le mettre plus fort, peut-être, le gong. Hein.
C'est bon, j'ai fini.
C'est bon, c'est terminé. En tout cas, on a bien compris, Romain Aymar, pour Atlantide, donc ces jeux d'enquête géolocalisés qui transforment notre un lieu en terrain d'aventure. Ça vous a plu, Nathalie Carré?
Mais j'adorais, j'ai téléchargé l'appli.
Ça ne m'étonne pas. Alors, quelle est votre analyse, Nathalie? Quelles sont les forces et les faiblesses d'Atlantide?
Donc, on doit arpenter les rues pour mener une enquête et lutter contre le mal. C'est une sorte d'escape game au milieu des rues d'une ville qu'on a envie de découvrir différemment. Alors moi, en fait, j'ai pensé à mes ados. Vous voyez, c'est totalement idéal.
On a 4.
Idéal pour le tourisme avec des ados. Là, il y a un âge où on a plus de mal à les tirer. Alors, Toulouse, Blois, Bordeaux, Paris, Lyon, bref, vous avez déjà une quarantaine de jeux dans 15 villes. Et vu le prix modique jusqu'à 8 euros, on peut découvrir plusieurs quartiers de la ville grâce à vous. On peut même créer son enquête. C'est un cadeau idéal et totalement personnalisé, donc pour un enterrement de vie de garçon ou un anniversaire, par exemple. Alors, pas pas pour améliorer, mais des suggestions. Alors la façon dont le jeu est expliqué, en fait, sur le site, on a l'impression qu'on joue seulement sur son téléphone, alors qu'en fait, pas du tout. C'est en regardant la vidéo que vous mettez que j'ai compris. Donc n'hésitez pas à vraiment montrer que c'est vraiment une sortie extérieure et que le téléphone, en fait, a un support d'enquête où on peut rencontrer des personnages historiques et accéder à des archives historiques. J'ai téléchargé l'appli, j'ai créé mon compte, j'ai cherché à acheter un jeu enfin. Finalement, je n'avais pas téléchargé la bonne appli parce qu'il y a aussi un Atlantide avec le même logo que le vôtre. Donc je ne sais pas. Ouais, y a, je ne sais pas qui est arrivé avec l'autre, mais il y a peut-être un sujet de propriété intellectuelle.
Vous avez déposé quelque chose
bah, oui,
ouais. Bah il y a peut-être okay.
Faites gaffe. Je regarderai.
Voilà. On est dans le jeu, mais aussi dans la découverte de l'histoire d'un lieu. N'hésitez pas à valoriser plus les historiens avec lesquels vous travaillez pour apporter vraiment de la légitimité aux informations que vous nous délivrez. Alors après, les usages sont presque infinis puisqu'il s'agit tout simplement de découvrir autrement. Donc ça peut s'appliquer aux lieux, aux objets, aux entreprises, à une filière même. Vous pourriez donc travailler avec ces marques qui ouvrent leurs portes pour le tourisme industriel. Ça serait peut-être un peu plus sympa que le conférencier classique ou complémentaire. En fait, vous êtes le remplaçant, au moins le complément de l'audio guide. J'imagine assez bien une mission Atlantide au musée Picasso ou par exemple ou à la Sorbonne. Et quand même, on se demande si votre appli sert à découvrir un lieu autrement ou est-ce que vous donnez envie de découvrir un lieu grâce à vos missions.
Ah, c'est vrai, c'est pas mal ça.
Vous allez dire les deux, mon capitaine.
Bah non, mais non, mais le château de Dracula, j'aurais pas
pensé.
On se dit
pas, voilà, on se dit pas qu'on va tout de suite y aller. Et en fait, on a peut-être envie d'y aller quand même. Alors, parce que finalement, grâce à Atlantide, on découvre le patrimoine français en jouant et on l'aime en enquêtant.
C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Pour l'application, je pense que j'ai une explication au fait que vous ayez téléchargé la mauvaise. C'est qu'en fait, on en a deux. On a Atlantide IO qui est la principale et on en a une autre qu'on a sortie pendant le confinement pour permettre aux gens de pouvoir continuer à jouer aussi à distance. Donc c'était un test pour pouvoir jouer, c'est une espèce de quiz basé sur l'histoire.
Alors, non
et en fait, elle continue, il y a des gens qui continuent à jouer, et ça permet aussi de vivre une expérience à distance qui est intéressante. Mais OK, mais c'est intéressant, du coup, je regarderai comment ça se fait qu'elle n'est pas arrivée en premier. Mais sinon, c'est effectivement, vous avez très très bien résumé, l'enjeu pour nous, c'est de réussir à amener les gens les joueurs à vraiment satisfaire des lieux, à découvrir différemment, à des personnes qui n'arrivent pas forcément à aller prendre l'initiative de faire une visite guidée. On les encourage du coup à quand même ressortir avec d'autres infos que simplement marcher dans la rue et ne pas du tout prêter attention à l'extérieur. Nous, le téléphone, comme vous l'avez aussi justement dit, sert simplement en produit d'appel. Mais ensuite, bah, voilà, c'est le lieu qui est riche d'histoire et on amène vraiment le joueur à lâcher son téléphone et à observer. Et 80% du temps, on est le nez en l'air en fait et on échange, on communique, ça se fait en groupe et c'est vivant.
Ça réunit plein de choses.
Ouais, hein. Exactement.
Emmanuel Maril, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb, vous en pensez quoi?
Moi, je trouve ça déjà formidable parce que le patrimoine, c'est. On a du pétrole, c'est le tourisme, mais le patrimoine, c'est quand même aussi absolument inouï.
C'est un autre pétrole.
C'est notre autre pétrole, exactement. Et ça, il faut le préserver. Nous, on s'est engagé avec la Fondation du patrimoine en novembre. On est un donateur, etc. Donc, je pense que voilà, c'est un gros sujet. Ça top. Moi, il y a deux choses. Et ça ne doit pas paraître professoral du tout. On n'a pas eu le temps de s'en parler avant, mais je l'aurais dit.
Mais vous
avant.
Êtes là pour ça. Hein,
oui, bien sûr, bien sûr. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a. La première, c'est, à mon avis, il faut voir si vous ne pouvez pas mettre de l'humain dedans. C'est qu'on pourrait rencontrer des gens quand on fait ces visites. Parce que je suis convaincu.
Ouais. Ah, c'est pas mal. Ça.
Parce que je suis convaincu que, après la pandémie, mais même en général, notre humanité, ça fait très un peu arrogant ce que je veux dire, mais on bénéficie quand même de toujours rencontrer d'autres gens, quoi qu'il arrive. Donc là, on rencontre des lieux, c'est formidable, mais rencontrer d'autres personnes, c'est encore mieux. Parce que les souvenirs, à mon avis, on en fabrique des bien plus beaux. Quand
avec
on a
des anecdotes,
voilà.
C'est les guides, à mon avis, c'est les guides qui pourraient servir de lien.
Ou aller encore un peu plus loin, on va dans un château, est-ce qu'il n'y a pas le propriétaire du château qui peut nous accueillir et nous expliquer ce qui se passe. Et le deuxième point, c'est ce qu'on a, parce qu'on a un enjeu aussi de redistribution du tourisme. Et Chantilly, c'est top, Mont-Saint-Michel, c'est très bien, c'est magnifique, évidemment. Mais des lieux qui sont hors des sentiers battus, que les gens connaissent un petit peu moins. C'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être aller chercher des lieux pas connus, mais des histoires incroyables. Et à mon avis, on peut compenser et on peut avoir des gens qui vont aller visiter des endroits où il n'y a jamais eu de touristes avant.
Très inattendu.
C'est exactement tout à fait l'objectif. En fait, l'idée, c'est qu'on a forcément des grands lieux,
pour démarrer, c'est essentiel pour pouvoir attirer des gens. Il faut démarrer avec des lieux
qui attirent. Des lieux iconiques.
Grâce à ça, en fait, on arrive à les intéresser parce qu'aujourd'hui, on a une grosse répétabilité. Donc, les joueurs qui jouent une fois jouent une deuxième fois à plus de 60%. Donc, c'est quand même un bon indicateur.
Déjà plus de 30 000 joueurs qui ont joué.
Maintenant, c'est 40 000.
Et ils continuent.
Après,
vous pouvez les emmener ailleurs.
Et ensuite, on les intéresse à des lieux, des petits villages où il y a beaucoup d'histoire et de patrimoine et on les fait sortir comme ça. Parce qu'il y a quelque chose que la Fondation du patrimoine, justement, m'a dit un jour que je trouve très intéressant et vraiment révélateur. C'est le plus grand danger du patrimoine, c'est pas les incendies, c'est l'ignorance.
Ouais.
Et en fait, nous, justement, on est là pour essayer, à notre façon et de notre manière, de toucher un public qui peut potentiellement ignorer le patrimoine sur cette tranche d'âge 16-30. Finalement, c'est la période où on est plutôt concentré sur autre chose, les études, le début du travail, etc.
Sur le téléphone.
Et sortir, ou enfin voilà, profiter de la vie, justement, d'essayer d'intégrer ça. Et donc, je vous rejoins sur le côté humain. C'est vrai que pour nous, c'est très, très important aussi de le réintégrer. Donc, voilà, ça fait.
Faut qu'on se parle
c'est quelque
aussi,
chose de qu'on réfléchit.
Vous allez vous parler
de vos expériences Airbnb.
C'est formidable.
Vous allez mettre un onglet. Vous avez 12 000 onglets. Vous pouvez rajouter un onglet Atlantide avec les jeux. Il y a peut-être un truc à
ou
faire.
Expérience.
Allez, on va vous laisser parler hors antenne. Et vous, surtout, vous revenez ici nous donner de vos nouvelles. Merci Romain et Marc, cofondateurs d'Atlantide. On vous souhaite bonne chance dans cette belle aventure. Et puis si vous aussi, chers auditeurs, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse, évidemment.
Et oui, vous faites comme Romain, e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge, la cérémonie aura lieu le 29 juin, ça va être un grand moment. Évidemment, on aura l'occasion de vous en reparler dans l'émission.
Europe 1.
Demain au travail, on va passer un coup de fil à la DRH de Roll. Là-bas, les salariés co-construisent le projet dans l'entreprise. Il paraît que ça permet de les garder plus longtemps. On va voir ça dans quelques minutes.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
La France bouge et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe toujours trop vite.
Toujours trop vite.
Nous sommes toujours avec évidemment Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Notre grand témoin du jour, c'est Emmanuel Maril, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. À la France bouge, on aime mettre en avant ces entreprises qui placent l'humain au cœur de leurs préoccupations. Ça se passe comment d'ailleurs l'humain chez Airbnb, Emmanuel Maril? Est-ce que vous mettez en place des initiatives, des choses pour que les salariés se sentent bien?
Oui.
Vous allez me dire oui, évidemment.
Je ne vais pas vous dire non.
Non, mais est-ce qu'il y a des.
Mais quand
des
on est une entreprise comme la nôtre, où.
Vous les envoyez dans un appart 10 jours, faire la fête au bord d'une piscine.
Ils vont. Non,
avec le barbecue
c'est,
et le
non, c'est plutôt. Il y a des choses intéressantes. Nous, on essaie de garder les gens en contact avec les hébergeurs, les communautés. Comme ça, on se souvient toujours pourquoi on travaille pour Airbnb. Ça, moi, je suis très attaché à ça. On parle avec des hôtes en permanence. Donc, ça, je pense que c'est important. Quelque chose que je ferais, moi, si j'étais. Si c'était ma propre entreprise, hein, ça l'est pas, mais si c'était ma propre entreprise. Mmh. Et puis, non, on est très. Ouais, c'est une entreprise qui est très bienveillante parce qu'elle est dans le tourisme, dans le voyage, dans l'accueil, dans l'hospitalité.
Dans le plaisir.
Exactement.
C'est important. Bonjour, Servane Petit.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des ressources humaines de Roll. Roll, c'est une entreprise qui existe depuis 40 ans. C'est club automobile. Hein. C'est pour rendre la vie de l'auto plus simple, économique, solidaire. Vous êtes basée à Boulogne. Il y a 270 salariés. Et demain au travail, pourquoi? Parce que vous avez développé une réelle autonomie vis-à-vis de vos collaborateurs. Vous avez décidé il n'y a pas longtemps de changer de stratégie. Vous avez choisi de co-construire le projet d'entreprise avec eux. C'était quoi exactement?
Alors, c'est parti, la genèse de la co-construction, elle est partie en 2013, où on a défini la stratégie de Roll de manière collaborative avec l'ensemble des collaborateurs. Et on s'est rendu compte de la puissance de cette co-construction, à la fois pour l'entreprise, mais à la fois pour les collaborateurs, parce que ça leur permettait finalement de s'épanouir et de comprendre à quel point ils étaient utiles dans l'entreprise.
Et ça, c'était une demande en fait de leur part aussi, de se sentir utile.
Se sentir utile, tout à fait. Le fait qu'ils co-construisent les projets, finalement, ils s'embarquent eux-mêmes, c'est leur projet. Et donc, du coup, ils se sentent complètement investis dans la stratégie de l'entreprise.
Et vous les responsabilisez à travers cela. Il y a moins de plaintes, j'imagine, puisque c'est un peu leur responsabilité aussi.
Tout à fait. On les responsabilise. Ils sont autonomes pour faire leur ce qu'on appelle chez nous leur roadmap, carnet de route. Ils travaillent sur leurs projets au semestre et les partagent ensuite avec le reste de l'entreprise.
Vous avez mis en place aussi un collectif de salariés qui agissent pour le bien-être dans le quotidien des salariés avec des vélos de fonction, plein de choses comme ça, non?
Oui. Donc nos collaborateurs qui le souhaitent ont un jour et demi par mois sur leur temps de travail pour participer à ce qu'on appelle le collectif. Et donc ce collectif travaille au bien-être des collaborateurs à travers différents thèmes qui peuvent être de l'environnement, du bien-être, du lien, du mieux travailler ensemble. Donc les collaborateurs peuvent s'investir pour quelques mois, six mois ou pour un sujet donné qui est proposé par le collectif.
Et grâce à toutes ces petites choses mises en place, vous parvenez à fidéliser vos salariés? Il y a moins de départs, moins de turnover?
Tout à fait. Nos salariés sont très engagés. En fait, ça leur permet de développer des nouvelles compétences qui sortent de leur premier domaine de compétences. Ça leur permet de créer du lien aussi avec d'autres équipes avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler par ailleurs. Donc oui, effectivement, ça les fidélise. Dans ces un jour et demi par mois, ils peuvent aussi travailler sur notre fondation. Et donc, typiquement, on a des collaborateurs qui ont créé une classe de code de la route pour aider les personnes en difficulté d'apprentissage à passer leur code. Donc pareil, ça leur permet de sortir un peu de leur domaine d'activité, de développer de nouvelles compétences et de s'investir sur des sujets un peu différents.
Merci Servane Petit, DRH de Roule. Ça donne envie, hein, c'est pas mal, hein, Nathalie Carré.
En fait, c'est bien toutes ces initiatives qui émergent là.
Ouais, elles émergent et elles permettent aux salariés de se sentir bien dans leur entreprise. C'est déjà la fin de votre émission. Emmanuel Maril, merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. On va aller louer notre appart.
Ah bah on y va.
Hein, allez, on va faire ça comme ça. Nathalie Carré, on se retrouve demain.
À demain.
Tout de suite, le flash suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1, La France Bouge.
Elisabeth Assayag.